Salut à tous et bienvenue pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable, le célibataire, le maître des castors, Julien Bénesson.
Salut Rudy.
Donc c'est une première mondiale, nous faisons ce podcast en même temps en visuel. Donc Julien fait des grimaces, des doubles biceps
Et
et
je
a
vois les
même
fesses
un
de Rudy.
t-shirt CITEC Nutrition. Incroyable.
Et moi je vois les pecs de Rudy magnifiques qui lui arrivent jusqu'au menton. Il a les triceps, les trapèzes derrière les oreilles. On dirait un Golgoth.
Donc actualité du moment, donc je voulais en parler mais c'est pas encore sorti, c'est le prochain livre d'Olivier Bollier, donc qui participe régulièrement au site sous forme d'article. Donc il sort un livre, donc j'ai noté le titre, qui s'appelle Approche moderne du développement de la force. Donc ça sort normalement d'ici le 20 septembre. Donc a priori, vu les autres ouvrages d'Olivier qu'il avait fait avec Aurélien Broussal, qui était vraiment super, je pense que là ça va être encore être super. Donc si Olivier tu nous écoutes et que tu veux venir présenter ton livre en audio, bah n'hésite pas. Et donc normalement ça sort d'ici 3 semaines. Donc pour continuer l'actualité des sorties, donc la semaine prochaine j'ai annoncé la sortie de mon e-book prochainement Rudy Koya, mes secrets pour la masse.
La
Donc
semaine
je
dernière, tu veux dire?
Ouais, là, c'est ça, parce que j'ai pas dit ça.
Non, t'as dit la semaine prochaine.
Ah merde, ouais, je parle trop vite, c'est ça. Là, c'est pour ça. C'est toi, tu me perturbes.
T'es trop intelligent, t'as le cerveau qui...
T'es tellement bien coiffé. Comme d'Eric. Donc, mon e-book, Rudy Koya, mes secrets pour la masse, ne sortira donc pas la semaine prochaine, mais d'ici 2 semaines. Mon webmaster est actuellement parti en vacances. Et donc, j'ai besoin de lui pour faire les dernières mise au point pour sa sortie, sachant qu'il est déjà sorti pour mes élèves. Donc, ce sera, je récapitule, ce sera dans la même lignée que mes secrets pour sécher, où ce coup-ci, bah, étape par étape, on voit comment faire une prise de masse, des exemples en photo, puis la réponse à plus d'une trentaine de questions.
Ah d'ailleurs on a vu récemment là bah, hier je crois sur la page Super Physique et Rudy Koya a un avant-après celui d'Aurélien
Qui s'est fait massacrer le
qui
pauvre.
apparemment
C'est vrai,
n'a pas plu
c'est
à
fait
tout le
massacrer,
monde.
parce qu'hier j'ai mis un avant-après d'Aurélien, donc un de mes élèves, qui est un de mes anciens élèves maintenant, et donc qui en 6 mois bah, s'est bien transformé, et il a eu le droit à pas mal d'insultes.
Ouais alors c'est très drôle parce que moi j'ai regardé un peu les messages de certains internautes. Donc t'as toujours le mec qui dit c'est pas possible, etc. Tu regardes sa photo de profil, je pense qu'il a jamais levé une haltère de sa vie. Il doit manger n'importe quoi. Bon c'est.
Ouais, bah c'est triste parce qu'après Aurélien est venu s'expliquer, quoi. Limite, il devait s'excuser d'avoir progressé.
Ouais.
Limite, il devait dire, ah, pardon les gars, j'ai progressé en 6 mois. Alors que bon, bah, il a fait une bonne progression, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas particulièrement de trucs à dire, sauf à dire bravo, à s'inspirer de ce qu'il a fait pour se motiver soi-même, quoi. Donc, moi, c'est comme ça que je mettais l'avant après, c'était pour motiver un peu les gens, montrer que c'était possible. Et puis le pauvre s'est fait massacrer. Alors je préviens, ne massacrez pas mes autres avant-après qui vont arriver, parce que sinon je vais tout censurer. Ça, ce sera réglé. Et puis seuls ceux que ça motivera bénéficieront de ces avant-après. Et enfin, actualité cinématographique, j'ai été voir Kick-Ass 2. Donc dans le genre de film de super-héros. Donc là, ceux qui connaissent pas Kick-Ass, en fait, c'est un. On n'a pas vu le numéro 1, c'est un humain qui se prend pour un super-héros, mais il sait qu'il n'a pas de pouvoir, mais il veut faire justice.
Ah, le mec te ressemble beaucoup quand même.
Ouais, voilà, bah, on peut dire ça. Sauf que moi, j'ai pas de costume. Mais le 1 n'était pas terrible, là, le 2 était vraiment marrant. Hein. Là, le 2, ils ont un peu mieux vu le tourner l'histoire et tout. Donc Julien va aller le voir pour donner son avis la semaine prochaine.
Mais marrant, c'est un film comique ou c'est un film d'action?
C'est entre les deux. Là, c'est vraiment entre les deux. C'est pas comme No Pain No Gain qui était une merde. Là, c'est franchement pas mal. Pendant tout le film, tu dis bon, qu'est-ce qui va se passer et tout. Là, il y a. Même à la fin, on voit le héros, donc Kick-Ass, torse nu, faire des tractions à un bras. Mais bien sec, pas énorme, mais bien sec et tout. Donc c'est. Le film était pas mal. Hein. Donc là, je conseille d'aller le voir. Hein, Julien, donc tu iras le voir et tu nous diras, vu tes goûts de chiottes en film.
Bah, malheureusement, en ce moment, j'ai un petit problème d'emploi du temps, mais bon, si j'ai l'occasion,
Ça va être un problème de castor.
peut-être, ouais.
D'ailleurs, as-tu vu la vidéo de Castor que mon élève a mis.
Bah oui, mais je l'ai partagé, je crois que je l'ai partagé sur ma page Facebook. Ça m'a bien fait rire, d'ailleurs, c'est Georges, hein, son prénom ?
Non, il s'appelle Christophe.
Ah, Christophe, bah Christophe, tu peux nous rejoindre
sur Facebook. Christopher, alors je sais pas si c'est Christophe ou Christopher pour faire style. Mais
On aime bien tes vidéos, tu peux nous rejoindre sur Facebook si tu veux, comme ça on rattrape plus rien.
Bah moi je rate rien, c'est sur Instagram.
Bah ouais, mais moi je suis pas sur Instagram.
Ah bah voilà. Monsieur n'est pas à la page. Alors, première question pour notre maître Castor.
Rudy, je voulais en profiter avant qu'on commence les questions pour faire un petit bonjour aux personnes qui sont venues me voir au Giga Gym, notamment Floron, donc très sympa, donc qui suit un peu l'actu de Super Physique et puis l'actualité de ma page. Donc du coup, il m'a vu m'entraîner.
Donc il était un peu. Il était un peu.
Il était un peu dégoûté de voir que j'étais
si fort.
Exactement.
Si fort, si musclé, si beau.
Puisque j'étais en train de faire des élévations latérales avec un poids tout à fait
honorable.
Hein,
honorable.
De 6 kilos.
Bien débuté, hein, de toute façon.
Donc voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Rudy, même si bon, on avait prévu de pas dévoiler le secret tout de suite, mais on voit donc tes avant-après de tes élèves qui laissent un peu, on va dire, certaines personnes perplexes. Je pense qu'on peut dire maintenant que j'ai repris l'entraînement depuis 2 mois et que j'ai pris 9 kilos de masse sèche.
N'importe quoi.
Bah si.
T'as pris 9 kilos ?
Bah oui.
Non.
Je te jure.
C'est pas vrai.
Bah bien sûr que si.
Oh merde, ça se voit pas.
Quel enfoiré.
Non, c'est vrai ?
Bah oui.
9 kilos ?
Bien sûr que si, tu l'as vu, bah oui.
Ils sont passés où ?
Dans les biceps.
Non, c'est... Ouais, les
autres, mais je suis sérieux, je suis sûr
que c'est une blague.
Non, je te jure. C'est pas une blague.
On en discute après, mais pour revenir là-dessus, si vous nous reconnaissez dans les salles, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, parce que c'est vrai que souvent, on vient me voir, et puis des fois on a peur, on me regarde de coin de l'œil, alors que je sais qu'on m'a reconnu. Et Julien n'est pas méchant non plus, donc vous pouvez lui dire bonjour. Et il me fait d'ailleurs un double biceps énorme et monstrueux. Il a dû prendre au moins 2 kilos dans chaque bras, parce que 9 kilos. Moi, je pense à un problème de balance. Bon, on attaque le podcast pour de vrai maintenant. Alors, Julien.
Oh, je t'écoute.
Oh, le salaud. Il vient de se foutre torse poil, putain. J'ai une question sur la nutrition. Je viens de lire le livre de Julien sur le blé. Il voudrait commencer une nutrition sans gluten. Mais également sans laitage. Si question gluten, je sais quoi consommer et quoi éliminer. Question laitage. Putain, mais arrête, c'est une merde. Fais un posing de mec, merde.
Oh merde. Pardon.
Si question gluten, je sais quoi consommer et quoi éliminer. Question laitage, je voulais savoir si les laits végétaux pouvaient être consommés. Et par quoi remplacer le fromage blanc. Alors, Julien. Ben, réponds à la question, au lieu de faire des conneries.
Alors, oui, on peut utiliser des laits végétaux.
Lesquels et pourquoi?
Alors, principalement, il y a 3 laits végétaux qui sont les plus courants. Il y a le lait de riz, le lait de soja. Enfin, le mot lait, c'est pas vraiment des laits, hein, parce que le mot lait, ça désigne des dérivés des produits animaux, mais bon.
Alors, pourquoi on dit lait?
Bah parce que on les utilise comme du lait, mais en réalité c'est des jus. C'est du jus de soja, jus de riz, voilà. Mais bon, de manière, dans le langage courant, maintenant on dit lait, mais c'est effectivement trompeur.
Bah ça fait moins rêver quand on dit jus de soja.
Bah oui, ouais, c'est. Donc, y a le lait de soja, le lait de riz et le lait d'amande, qui sont principalement les 3 produits qu'on peut trouver. Le lait de riz, je le déconseille parce que le riz est hydrolysé, donc c'est assez sucré. Et en plus, l'index glycémique, il est élevé, il n'y a pas beaucoup de protéines, donc c'est pas un lait très intéressant. Le lait de soja, c'est un peu mieux, il y a un peu plus de protéines, il y a moins de glucides. Rudy me fait un posing. Et donc le lait de soja, c'est un petit peu mieux, mais tout le monde n'est pas fan du soja, et puis je sais pas exactement comment sont préparés ces trucs-là, je sais pas s'il reste des antinutriments ou pas là-dedans. À mon sens, le meilleur lait, c'est le lait d'amande, parce que, comme dans l'amande, on retrouve des teneurs assez élevées en calcium, ce qui peut être intéressant, notamment pour les gens qui ont peur de manquer de calcium.
Et puis c'est assez digeste, c'est antioxydant aussi, donc c'est pas mal. Le lait d'amande, on peut aussi alterner lait de soja et lait d'amande. Voilà ce que je pourrais dire.
Ok, et donc par quoi remplacer le fromage blanc ?
Bah, le fromage blanc, j'ai du mal en fait à comprendre la question parce que...
Bah, souvent on fait prendre du fromage blanc le matin ou le soir avant de dormir. Donc pour le soir avant de dormir on a déjà répondu, mais imaginons le matin pour avoir une source de protéines en fait.
Bah, le matin après, voilà, il faut changer de manière de manger, donc on peut plus manger... Il n'y a pas de remplaçant... Enfin si, ouais, on remarque qu'il existe les yaourts de soja qu'on peut utiliser comme des yaourts.
Que penser, bah justement, on provise une question, que penser du soja et des effets œstrogéniques, entre guillemets, qu'il pourrait avoir?
Bah, a priori, c'est pas trop inquiétant à dose commune, on va dire.
Est-ce qu'une dose commune?
Bah, si t'en manges pas quotidiennement, à tous les repas, quoi. Donc si t'es omnivore, on va dire. Ça peut être plus, je pense, que c'est plus une préoccupation pour les végétaliens qui ont des difficultés à trouver des sources de protéines. Ils vont se mettre à manger beaucoup de soja. Là, c'est peut-être pas évident, mais les études en fait sur l'impact dans la vraie vie, parce que il y a des études en laboratoire qui montrent qu'effectivement le soja est œstrogénique, etc. Mais dans la vie réelle, les études qui ont examiné le lien entre la consommation de soja et puis le cancer de la prostate ou la fertilité, etc., elles sont, comme on dit en anglais, inconclusives, c'est-à-dire qu'on a tantôt des études qui montrent que oui, il y a peut-être un petit risque, tantôt des études qui montrent que non, il n'y a pas de risque. Donc ça veut dire que s'il existe un danger, il est relativement faible puisqu'il n'est pas ressorti dans ces études. Donc je m'en inquiéterai pas trop. Je pense que si on a besoin de manger du soja, c'est parce qu'on a des raisons de le faire qui valent le coup, par exemple le fait de supprimer le gluten ou d'être végétalien. Donc du coup, c'est pas vraiment une inquiétude que j'aurais.
Si on est flexitarien.
Bah flexitarien, ça il faut te prendre comme coach pour voir, parce que là je ne sais pas. pour finir de répondre à la question, donc par quoi remplacer le fromage blanc? Bah au final, moi je pense qu'il faut apprendre à manger différemment. Les œufs le matin, c'est pas mal, beaucoup de gens c'est bon et puis ça passe assez bien en général comme source de protéines. Mais après, voilà, je saurais pas trop dire, il y a plein de solutions. Dans l'assiette de la force, il y a les crêpes du sportif de Christophe qui sont pas mal, qui sont faites avec des protéines de blanc d'œuf, de la farine de sarrasin, de l'eau. D'ailleurs, il y a la recette en vidéo sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne veulent pas acheter le livre. Donc voilà, faut trouver des idées, apprendre à manger différemment en fait.
Merci Julien, t'as bien répondu. Alors, entraînement. La contraction accentuée avec pause en haut pendant 1 à 2 secondes sur des mouvements où la résistance en haut est forte comme le rowing, les shrugs, donc les haussements d'épaule ou les extensions de mollets par exemple peut-elle être utile dans un but de prise de muscle ou vaut-il mieux accentuer ces exercices de manière plus traditionnelle? En général, la contraction accentuée, je ne le recommande pas sur la plupart des exercices. Le seul endroit où je le recommande, c'est soit sur l'exercice d'isolation vraiment pur, entre guillemets. Imaginons, donc, exemple, les écartés à la poulie haute pour les pectoraux. Donc là, où le but est vraiment de contracter les pectoraux, le but, c'est pas de faire une performance, c'est vraiment d'apprendre à contracter, de laisser le sang affluer, de congestionner. Et après, sinon, sur les points faibles, donc qui ont du mal à se contracter, imaginons, on va reprendre l'exemple des pecs, j'ai du mal avec les pectoraux, je fais le développé couché, je prends pas de pecs, etc. Et dans ce cas-là, je vais me concentrer sur la contraction et forcer cette contraction justement en l'accentuant. Mais après, en dehors de points faibles ou d'exercices vraiment d'isolation pure, il n'y a pas un grand intérêt et je pense qu'il vaut mieux exécuter ces exercices de manière traditionnelle. Par exemple, tenir la contraction au rowing quand on n'a pas de problème d'épaisseur de dos, il n'y a pas vraiment de plus. Pareil pour les trapèzes et pareil pour les mollets. Ça n'apporte pas un plus vu que de toute façon, c'est toujours pareil. L'important, c'est toujours de progresser et de faire mieux de séance en séance, que ce soit en répétition ou en charge, pour prendre du muscle et de la force petit à petit. Donc voilà, donc après, ça peut, comme j'ai mon conclusion... en dehors d'un exercice d'isolation pure et d'un point faible, il n'y a pas de raison de faire ça, c'est plutôt une perte de temps et c'est contre-productif. Donc Julien, ne t'amuse pas à contracter devant la webcam, ça ne sert à rien.
Ah zut.
Vu la politique. Il est salaud parce qu'il essaye de me faire des posings pendant que je réponds. Julien, selon certaines études, il semblerait que l'exposition au soleil ne stimule pas suffisamment la production de vitamine D. Qu'en penses-tu?
Bah, et en plus, là, apparemment, il y a un lien dans la question, et il marche pas ton lien, là.
Ouais, il marche pas.
Donc, parce que moi, j'ai aucune connaissance de l'existence d'une étude qui montre que l'exposition au soleil ne stimule pas la production de vitamine D. Dans la question, c'est stimule suffisamment. Donc, c'est évident que s'exposer une semaine dans l'année, ça suffit pas pour avoir un bon taux de vitamine D. Donc voilà, donc j'ai pas spécialement d'avis là-dessus, étant donné que j'ai pas connaissance d'une étude qui ait montré
que le soleil. Après, c'est toujours pareil, moi j'avais lu le livre, c'était quoi, c'était Soleil, mensonges et propagande chez les éditions Thierry Soucard, c'est ça le titre?
Oui, tout à fait.
Où ça parlait du temps d'exposition en quelque sorte qu'il fallait pour avoir assez de vitamine D, pour en synthétiser assez.
C'est environ 20 minutes, hein.
Ouais, donc a priori il n'y a pas de
minimum, ouais. Mais
tu dois pas beaucoup aller au soleil, toi, j'ai l'impression.
Par contre, de toute façon, le soleil permet de synthétiser de la vitamine D. Ça, c'est une fonction essentielle biologique chez
les. Après, suffisamment, ouais, c'est une question de durée, tout simplement.
Voilà, c'est une question de durée, puis une question de est-ce qu'on met de la crème solaire ou pas, est-ce qu'on peut s'exposer régulièrement dans l'année. Enfin, de toute façon, en France, il n'y a personne, ou presque, qui peut avoir un bon taux de vitamine D dans le sang toute l'année, uniquement avec le soleil. Ça, c'est pas possible, la latitude ne le permet pas. Donc, c'est pour ça qu'on recommande les compléments.
D'accord.
Voilà, Rudy.
Alors, question d'entraînement. Se ménager nerveusement influe-t-il sur la progression en termes de prise de masse musculaire, mais aussi en termes de progression sur les charges de travail sur le long terme? Donc pour moi les deux questions sont les mêmes parce que de toute façon une prise de masse, une prise de muscle sur le long terme, ça passe par une progression sur les charges de toute façon.
Cela dit, Rudy, je me permets une petite parenthèse. Moi j'ai un petit peu de mal à comprendre ce que l'internaute veut dire en disant se ménager nerveusement. Qu'est-ce qu'il entend par là?
Ben pour moi, ça veut dire justement je voulais dériver sur la notion de cycle, sur comment cycler son entraînement justement avec des séances qui soient plus faciles que d'autres. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Donc pour moi, se ménager nerveusement, ça veut dire ne pas être tout le temps à fond. Donc c'est ce que j'ai écrit, j'ai détaillé ça en détail dans mon quatrième e-book, donc, qui n'est pas encore sorti, qui va mettre du temps à sortir. Mais c'est la notion de cycle, en fait, où on n'est pas tout le temps à fond, on apprend quelquefois à se ménager, donc nerveusement, et même musculairement, articulairement, donc se ménager globalement, pour pouvoir, après, construire une base et pouvoir faire les séances de fin de cycle qui vont permettre la progression réelle. Donc oui, si on est tout le temps à fond sur chaque série, sur chaque entraînement, nerveusement on va être mort à un bout d'un moment et ça va être fini. Ça me rappelle une anecdote parce que là je suis en train de lire le livre La course secrète, donc qui est un peu la confession de Tyler Hamilton, le cycliste. Et même si c'est une fatigue un peu globale qu'il a, et il raconte justement dans le bouquin que au départ il était clean, quoi, il prenait aucun produit, et puis au bout d'un moment, il faisait toujours des analyses de sang dans les équipes pro, et il voyait putain que son hémoglobine diminuait, son taux de testo diminuait, tout diminuait. Et donc il voyait bien que répéter un effort à fond pendant plusieurs jours, style il faisait des épreuves sur une semaine, et ben à la fin il était mort, quoi, il avançait plus, etc. Donc bah là dans le muscu c'est pareil, si on est tout le temps à fond, bah il y a un moment comme on prend rien, on est naturel, et ben on va être mort.
Donc c'est comme ça. Comment ça on prend rien? Tu prends rien toi?
Il est con. Super physique 100% naturel, c'est la règle, hein. Oublie pas. Donc donc pour revenir sur la question, en fait on peut pas tout le temps être à fond. Il faut qu'il y ait des périodes où on soit plus dur et d'autres plus facile. Donc c'est tout l'intérêt du cycle. Qui n'est pas un cycle comme on voit habituellement, un cycle de force, un cycle d'explosivité, un cycle de masse, nanana. Ça, c'est des conneries. Mais plutôt un cycle de progression sur un exercice, comme on peut le voir, par exemple, dans l'exemple sur le site, c'était prise de masse et développé couché sur 3 mois qu'on avait mis. qui est un bon exemple de cycle de progression. Donc voilà, pour répondre à la question, donc oui, il faut se ménager nerveusement certaines fois, sinon sur le moyen et le long terme, on progresse pas. Sur le court terme, on va progresser et on va vite stagner. Donc oui, ménagez-vous au moins en début de cycle. Entraînez-vous par cycle, en gros. Donc, dernière question du podcast, Julien. Peut-on parler du chlorhydrate de L-ornitine et du chlorhydrate de L-arginine? Effet sur la performance, sur la santé, utilité en musculation, trois petits points.
Non, on peut pas en parler. Voilà, c'est la fin du podcast. À bientôt, tout le monde.
Bah, moi, je vais en parler, alors.
Si. Non, alors, ornitine et arginine, c'est ça?
Ouais. Bah, donc, à la base, je te récapitule les choses, c'est que dans les vieux magazines, donc maintenant, je suis pas abonné, donc je sais pas, mais à l'époque, on disait que de prendre de l'arginine et de l'ornitine augmentait l'hormone de croissance, et on disait donc, ah, ça augmente l'hormone de croissance, on va prendre du muscle, on va sécher, c'est super.
L'ornitine, t'as déjà vu ça, toi? Parce
que ouais, j'ai déjà vu ça.
Bon. Bah, c'est surtout l'arginine, quand même, qui est populaire pour stimuler les hormones de croissance. Il faut quand même dire que, il y a eu des études là-dessus, il y en a eu plusieurs. Elles sont pas toutes très concluantes, mais il semble quand même qu'effectivement ça puisse fonctionner. Mais il faut aussi surtout mettre ça en perspective avec le bénéfice qu'on va en retirer. Et en fait, la simulation qui va être provoquée par un peu d'arginine est tellement ridicule que de toute façon ça a vraiment aucun effet à part vider le pot, quoi.
Donc ça. On avait déjà discuté, Julien, qu'il y avait plusieurs types d'hormones de croissance. Qu'il y en avait qui étaient sécrétées de façon locale et d'autres de façon plus générale, et que celles qui nous intéressaient, c'était surtout locales pour prendre du muscle.
Oui.
C'est cette discussion.
Oui, on peut dire ça aussi, mais enfin, l'hormone de croissance en elle-même, elle est importante. Là. Ce dont on parlait, les facteurs locaux, c'est l'IGF-1, insuline growth factor, qui est intéressante au niveau du muscle, mais sinon l'hormone de croissance en elle-même, elle est utile pour aider à perdre un petit peu, enfin un de ses rôles, c'est d'aider à la lipolyse, donc à perdre du gras en fait, donc à utiliser les graisses pour fournir de l'énergie, donc dans la théorie c'est efficace, mais enfin c'est surtout efficace en injection, c'est pas très efficace en prenant de l'arginine.
Surtout que l'arginine en général, dorénavant, on le conseille comme c'est le précurseur numéro 1 du NO pour congestionner.
Ouais, bah là aussi il y a eu des études qui montrent que bah bof quoi, ça fait pas grand chose non plus.
Ah bah moi je sens une petite différence.
Bah ouais, une petite différence, mais après est-ce que tu gagnes du muscle ou quoi?
Ah non, c'est ce que je dis dans les articles à chaque fois, c'est je dis pendant la séance t'es content, mais après il n'y a rien de plus.
Ouais.
Mais là au moins c'est un effet qui se voit, alors que l'augmentation de l'hormone de croissance tu le vois pas du tout, tu le sens pas.
Oui, mais c'est pas chez tout le monde, hein. Il y a eu des études avec l'arginine qui montrent chez certaines personnes que ça marche pas aussi pour la vasodilatation de toute façon. Donc c'est vraiment pas le truc miracle. Donc pour moi pas grand intérêt.
Donc prendre de l'ornitine et de l'arginine.
Bah, l'ornitine c'est encore différent en fait, c'est un acide aminé qui rentre dans le cycle de l'urée et qui permet de détoxifier l'ammoniac qui est produit pendant l'exercice physique. Et les études, un peu comme la citrulline, hein, citrulline et ornitine c'est du même acabit, et les études ont montré que ces acides aminés permettaient, en accélérant l'élimination de l'ammoniac, permettaient un petit peu d'accélérer la récupération, ça veut dire que les courbatures disparaissent un petit peu plus rapidement.
Ah bah c'est intéressant, alors combien faut prendre d'ornitine?
Bah non, c'est pas très intéressant, parce que quand je te dis ça disparaît un peu plus rapidement, ça reste pipi de chat en termes de différences concrètes, si tu veux. On peut le mesurer dans les études, mais si tu perds tes courbatures 3 heures plus tôt ou 3 heures plus tard, ça change strictement rien par rapport à tes entraînements, ta performance et ta progression. Donc pour moi, aucun intérêt aussi.
Ok, voilà. Bah...
Après, ce serait plus des choses utiles pour les sports d'endurance, par exemple. Si justement on doit enchaîner des efforts chaque jour, comme tu parlais tout à l'heure des cyclistes, pour eux c'est vraiment ça peut être un bon complément. Le fait d'accélérer l'évacuation de l'ammoniac, bah c'est bien. Là ça va accélérer la récupération, et comme il faut être prêt le lendemain, là c'est peut-être le bon moment de prendre ce genre de choses. Et pour la muscu, aucun intérêt.
Bon bah, au moins c'est clair, hein.
Ouais.
Bon, bah on a fait le tour des questions pour ce soir. Donc je rappelle encore une fois que vos questions... Tout à l'heure, on m'a encore posé la question sur Facebook. Donc il faut s'inscrire sur le forum. On peut pas poser des questions si on n'est pas inscrit sur le forum, mais ça prend 2 minutes. Donc de s'inscrire d'être sur le forum, et c'est la rubrique entraînement, et après il y a un sujet podcast tout en haut, où vous mettez vos questions, et de toute façon on va y répondre à tous, à toutes. Donc si on la traite pas, si vous la posez cette semaine et qu'on la traite pas, on la traitera forcément un jour de toute façon. Donc n'hésitez pas, mettez vos questions. On voyait bien, Julien me fait des posings pendant que je réponds. Alors il est blanc comme un linge, et puis qu'on se demande où ils sont les 9 kilos, mais bon.
Quel enfoiré.
Mais ça on va reparler après le podcast. Donc voilà, donc sur ce, à la semaine prochaine, avec le maître des castors, qui a pris 9 kilos en 2 semaines.
Salut à tous.